Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Nous voici à nouveau dans Lectures en liberté pour la suite du récit de Jacques Josse, Café Rousseau. Un coup de remontant ! S'essuyant le menton du bout des doigts, le fossoyeur tend la fiole à Inizan. Celui-ci incurgite une gorgée de niol avant de redonner l'objet à son propriétaire qui le range dans la poche ventrale de son bleu. Il se tourne, rallume son mégot. Face à lui, le curé semble mal à l'aise. Il malaxe son béret, ne sait comment s'y prendre pour récupérer ne serait-ce qu'un filet de parole. Le destin de l'ER vous inquiète tant que ça ?
Non, non, enfin, oui tout de même ce geste.
Jamais personne n'a réussi à expliquer ça. Au tribunal, l'ER s'est laissé charger comme une mule. Sans se défendre, sans même ouvrir le bec.
Le curé reste sceptique. Il esquisse une moue significative, hausse légèrement les épaules. Après tout, pourquoi pas ? Près de lui, le fossoyeur cligne des yeux. Il sort son mouchoir, essuie ses paupières qui tremblent, aspire une longue bouffée de tabac et se décide à reprendre.
Oh, ce n'est qu'une anecdote, rien de plus.
D'un signe, Inizan l'invite à poursuivre.
Voilà, le R a été jugé, condamné, pour meurtre avec préméditation. On a fini par oublier.
Mais un soir, 17 ou 18 ans après le crime, on a vu venir un taxi. Il a stoppé sous la fenêtre du bar. À 7 heures du soir, en plein hiver, ce genre d'apparition ne pouvait pas ne pas nous intriguer. On s'est planté là, nos verres à la main, à regarder derrière les rideaux. Il tire à nouveau sur son mégot. La fumée lui sort par la bouche, par le nez. Un halo bleuté flotte au-dessus de sa casquette.
Et 30 secondes plus tard, la voiture a redémarré. Elle a contourné la place pour s'arrêter devant la grille d'entrée du cimetière. On a alors vu le passager arrière sortir. C'était un grand type, cheveux gris coupés courts, costume sombre, assez maigre. Il avait un bouquet de fleurs à la main. Il a pénétré dans l'enceinte et s'est dirigé droit sur la tombe de l'ER. Vous avez compris. C'est ainsi que l'ER a réapparu au village.
Il avait purgé sa peine. La première chose qu'il faisait, c'était de se rendre sur la tombe de ses parents, la tête haute, comme toujours. Le fossoyeur s'arrête. Il observe le prêtre. Celui-ci remet son béret, puis décoche un sourire.
Étrange bonhomme, murmure-t-il. De là à penser qu'il regrettait son geste,
la phrase ne se termine pas. Inizan a posé un index sur ses lèvres. Pas besoin d'enfoncer la porte des brumes. Pas besoin, bégaye-t-il. Et il s'attarde, les bras ballants, le cœur en friche, les prunelles rivées sur l'étroite fêlure de terre, tandis que le fossoyeur, consultant sa montre, s'inquiétant soudain de l'heure qui passe, s'excuse et improvise un au revoir furtif.
« Allez,
Le trou de Jodnitpi n'attend pas, lance-t-il. S'en retournant d'un pas vif vers la faille ouverte de l'autre côté du cimetière. Au milieu des ruines. Le menuisier approche, lisse, caresse le bois du plat de la main. Son toucher est souple et précis. On dirait qu'il palpe les fesses d'une femme.
Ben, il s'agit à l'origine d'un chêne du Périgord. Mais le climat d'ici lui a permis de gagner en tendreté, explique-t-il.
Tony et Karoff suivent ses gestes. Tous deux se taisent, se tiennent debout devant le cercueil. Le couvercle est posé sur des tréteaux à l'autre bout du hangar. L'apprenti s'en occupe. Il est en train de le passer au séchoir électrique.
« On va le polir dans une heure pour une livraison en soirée », annonce le menuisier.
« C'est toi qui fais la mise en bière ?» se hasarde le professeur.
« Bon, on va s'y mettre tous les deux. On fera ça là-bas, directement à la morgue. »
Se hissant sur la pointe des pieds, Karoff avance le corps et la tête pour inspecter l'intérieur de la boîte. Le lit capitonné du braconnier a déjà fière allure. Il invite Tony à le redécouvrir à son tour.
Regarde, bah il sera sûrement bien là-dedans,
lâche-t-il en se frottant les mains. Un léger silence traverse l'atelier. Assis dans la sûre, Micmac interroge les hommes. Il aboie. Et alors ce sont eux qui l'observent.
Avant de plomber la boîte, je m'arrangerai pour poser au moins le chapeau-casquette à plumes de Bouvreuil sur sa poitrine et, si possible, une peau de renard sous sa nuque, dit le menuisier.
Le professeur lui décroche un sourire. Le fabricant de bière n'est pas un néophyte. Il est même devenu orfèvre en fétichisme post-mortem.
Ainsi, le pendu Briquir lui doit de reposer avec un bon maître de corps de porte-bonheur à ses côtés. La femme aux apéritifs avec trois bouteilles de Raphaël. Et Marchand, le fameux pêcheur de truites, en compagnie de son moulinet Mitchell et d'une cade en fibre de carbone Carbonilo.
Le vent soulève quelques copeaux à l'entrée du hangar. Micmac se soulage contre des planches. Karoff est en proie à l'une de ses multiples et soudaines réflexions quotidiennes. Il se masse le front, regarde par terre et change subitement de sujet.
Au fait, t'aurais pas vu passer la dépanneuse ?
Si, juste un peu avant midi. Mais si tu veux mon avis, la 4L est dans le sac.
Eh ben, on va aller voir ça de plus près, lance-t-il.
Il siffle. Micmac rapplique. Tony leur emboîte le pas. Le trio prend sans plus attendre la direction du garage. Le prêtre a repris ses courses sur la lande. Il avance, il cavale, il attaque la falaise. Il fait route cap au nord. Dans la sacoche en velours noir qui bat contre son épaule, il a mis la burette, la fiole, l'hostie, l'étole, le livre et le dé à boire. Ce soir, il annonce la couleur. Rousseau est mal en point. Dans l'après-midi, le docteur est venu glisser une feuille de papier sous la porte du presbytère, quelques mots griffonnés sur une ordonnance. Le cœur s'accroche à la barre, mais il connaît des émois de vieux célibataires en rupture d'abstinence. Le prêtre a compris. Pas besoin de lui faire un dessin. Il accélère l'allure, salue le chat de la vieille Briquire, quitte les arbres de Kéruau, aperçoit en bas sur la grève les silhouettes diffuses de Tony, du professeur et de Micmac. Ces trois-là marchent sur les galets. Le professeur se tient le front.
Tony traîne une carriole derrière lui, sans doute emplie de bouts de bois rejetés par la mer.
Inizan éprouve une sensation de bien-être. Dans quelques heures, il portera l'âme de Rousseau sur la pierre des lavoirs d'en haut. En attendant, il hume le cul vanillé des ajoncs. Il vénère leurs belles robes de velours jaune, s'exalte, se griffe, transporte de menus fantasmes sous son béret. « C'est comme si je crapahutais en aveugle dans les ornières, » plaisante-t-il. Il apprécie les poussières, les ronces. Il avance entre deux bosquets de houx. Il n'est sûr de rien. Et puis je me méfie de tout. À moi de savoir me tenir sur mes gardes. La mort erre dans les parages. Elle tire la langue. À coup sûr, elle cherche un raccourci pour le prendre de vitesse. Elle progresse à distance. Il croit entendre son pas ferré qui escamote la terre du sentier. Il la sait capable de feindre. Capable d'inaugurer les cloches à toute heure, d'empoigner la corde, de sonner midi à sa convenance, d'égrener en grappes mauves et rouges des averses d'Angélus entrecoupées de glas par secousses. Aucune honte, jamais, n'ébranlera l'aplomb de l'invisible mielleuse. Il égaye sa marche avec les moyens du bord. Ainsi, d'une simple pichenette mentale, il retourne en un curieux jeudi de Pâques. Il est au village depuis 2 mois. Madame la boulangère s'agenouille. Du linge volette autour d'elle. Elle se confesse, il écoute. Mon père, priez pour une femme qui pioche. Il balbutie, psalmodie, marmonne des conseils incompréhensibles avant de donner à la va-vite l'absolution à celle qui, le soir même, du creux de son absence, occupera durant plusieurs minutes ses pensées. Le temps pour elle de faire sauter un à un les boutons de son corsage, découvrant avec lenteur sa gorge farineuse et ses longs tétons bruns pointés à travers la grille en losange du confessionnal.
Je suis né dans un petit village qu'un nom pas du tout commun, bien sûr entouré de bocages, c'est le village de Saint-Martin. À peine j'ai 5 ans qu'on m'emmène avec ma mère et mes frangins. Mon père pense qu'il y aura du turbin dans la ville où coule la Seine. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. La capitale, c'est bien joli, sûrement quand on la voit de Passy, mais de Nanterre ou de Charenton, c'est déjà beaucoup moins folichon. J'ai pas de mal à imaginer par où ce que mon père est passé, car j'ai connu 15 ans plus tard le même tracas, le même bazar. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. Le matin, faut aller piétiner devant les guichets de la main-d'œuvre. L'après-midi, solliciter le bon cœur des punaises, des bonnes œuvres. Ma mère, elle était toute paumée, sans ses lapins et ses couvées. Et puis pour voir, essayer donc, sans fric de remplir 5 lardons. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. Pour parfaire mon éducation, il y a la communale en béton. Là, on fait de la pédagogie devant 60 mômes en furie. En plus de l'alphabet du calcul, j'ai pris beaucoup de coups de pied au cul. Et sans qu'on me l'ait demandé, j'ai appris l'arabe et le portugais. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. À 15 ans, fini la belle vie, t'es plus un môme, t'es plus un petit. Je me retrouve les deux mains dans le pétrole, à frotter des pièces de bagnole. 9-10 heures dans un atelier, ça vous épanouit la jeunesse, ça vous arrange même la santé. Pour le monde, on a de la tendresse, j'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. C'est pas fini. Quand on en a un peu là-dedans, on n'y reste pas bien longtemps. On s'arrange tout naturellement pour faire des trucs moins fatigants. Je me faufile dans une méchante bande qui voyoute la nuit sur la lande. J'apprends des chansons de bruant en faisant des croche-pattes aux agents. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. Bien bien sûr la maison Poulaga. Malgré pas mon premier faux pas, ça tombe bien, mon pote a de la veine. Faut du monde pour le FLN. Je me farcis 3 ans de casse-pipe, Orescabil, Limitija. Y'a de quoi prendre toute l'Afrique en grippe, mais faut servir le pays ou pas, j'en suis encore à me demander. Après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout? À quoi ça sert en bref d'être né? Quand on me relâche, je suis vidé, je suis comme un petit sac en papier, y'a plus rien dedans, tout est cassé, j'ai même plus envie d'une mémé. Quand j'ai cru que j'allais me réveiller, les flics m'ont vachement tabassé, faut dire que je m'étais amusé, alors balancer des pavés, j'en suis encore à me demander. Après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né? Les flics pour ce qui est de la monnaie, ils la rendent avec intérêt, le crâne, le ventre et les roustons, enfin quoi vive la nation. Le juge m'a filé 3 ans de caisse, rapport à mes antécédents, moi je peux pas dire que je sois en liesse, mais enfin qu'est-ce que c'est que 3 ans, j'en suis encore à me demander. Après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né? En tout, je vais pouvoir m'épanouir dans une société structurée. Je ferai des chaussons et des balais et je pourrai me remettre à lire. Je suis né dans un petit village qu'un nom pas du tout commun, bien sûr entouré de bocages. C'est le village de Saint-Martin, j'en suis encore à me demander. Après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout? À quoi ça sert en bref d'être né?
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Et nous revenons au texte de Jacques Josse. Café Rousseau, après la traditionnelle pause musicale. L'abbé jette ses courtes jambes en avant, le vent d'ouest lui chauffe la figure, il quitte le sentier des douaniers, rejoint la grande route. À 1 kilomètre, à vol d'oiseau, il distingue nettement le radar, l'antenne, la girouette et le drapeau tricolore qui flotte en haut du sémaphore. Puis le lumineux bâtiment blanc s'offre tout entier à sa vue. Il le laisse sur sa gauche, s'éloigne du froissi des vagues, longe un champ, un talus, une haie. À intervalles réguliers, il porte une main fébrile à sa poche, vérifie la présence du chapelet terreux qui dort au fond. Il y tient. Il l'a fabriqué lui-même. C'est d'ailleurs tout ce qu'il a pu conserver de l'ancien ossuaire de son village natal. Cela et quelques arpents de peur enroulés sous son crâne. Combien d'automnes depuis? Faudrait sans doute diviser le siècle par deux et en soustraire bien des visages de brume. À l'époque, les Allemands stationnaient dans le bourg. Depuis 2 jours, l'atmosphère devenait de plus en plus pesante. « Ils occupent !» susurraient les bouches les moins cousues. En réalité, ils se saoulaient au café, tabac, épicerie du coin. Ils exhibaient des boîtes d'allumettes, des torches, des briquets, en promettant de foutre le feu partout à la moindre incartade. Il fallut attendre la fin du second jour pour que des ordres fussent. Un qui les donnait, les autres qui s'alignaient en titubant pour les exécuter. Ensuite, tout s'est passé très vite. Ils ont déboulonné le soldat vert de la dernière grande saignée en date. Certains ont craché dessus et balancer la statue dans le lavoir avant de faire sauter le vieil ossuaire communal. Ces instants-là restent à jamais plantés dans la mémoire d'Inizan. La nuit, une fois les camions, les voitures, les sidecars et les hurlements troussés au calva local repartis, les ombres de la presqu'île ont enfin osé lever les loquets des portes. Elles se sont baissées une à une dans le noir, ont ouvert de grands cabas devant elles pour glaner, ramasser les restes des défunts éparpillés comme des morceaux de sucre dans l'enceinte du cimetière. Il était du nombre, curé encore en culotte courte, pris dans l'assemblée des glaneurs, dehors comme les autres, grappillant en silence les osselets sales sur lesquels il avait jeté son dévolu et qui, depuis limé, blanchi, percé, ordonné, conçu à la mesure de son pouce et de son index, ne l'ont plus jamais quitté. Inizan se retourne une dernière fois, lance un œil morne sur le paysage, ne peut se défaire de l'idée que tout ici, décidément, crève à petit feu. lavoir ou auge debout. Granges ouvertes à tout vent, murs fendus, fissurés, lézards et vipères se dorent là où jadis se trouvait une chambre, une salle, un cellier. Il récapitule sans peine. Un port, des phares automatisés, 3, 4 chalutiers faméliques, un sémaphore presque neuf, quelques fermes dans la vallée, des vieux qui attendent, les résidences qui ferment dès l'automne, pas un baptême depuis des lustres, aucune issue possible, soupire-t-il. Près de la chapelle de la Trinité, sur la route qui descend vers la plage, la baraque à frites de Jeff est déserte. Les derniers estivants la boudent. Dans une semaine, elle sera désossée et Jeff devra repointer au chômage. Pour l'instant, il fume un joint et boit du muscadet dans un gobelet en plastique. Assis à ses côtés, le labrador noir qui arbore un bandana rouge autour du cou garde son flegme. Tous deux aperçoivent à travers les branches le curé qui réfléchit sur le seuil du café Rousseau. « Le vieux va clapoter dans la nuit », prédit Jeff. Il remplit son gobelet. Avant de le porter à ses lèvres, il le dirige vers le café. « Allez, à ta santé, Rousseau, et merci pour tes tournées à l'œil », dit-il, en faisant claquer ses talons l'un contre l'autre et en sifflant son verre cul-sec. À Gwynségal, les goélands piquent du bec dans les rouleaux d'écume. Au large, les rochers, les îles, l'Isnin, la Hergue, Lost Peak, Bec Astel et la Horène ne sont déjà plus de ce monde. C'est comme si la traîne tenace du vent d'ouest tissait le linceul de l'été. Le prêtre abandonne le décor, il entre chez le cabaretier Rousseau. De courtes enjambées le mènent au premier palier. Il ouvre la porte, s'incline, se redresse, façon de saluer le moribond. Celui-ci émet un grognement. Il semble en partance totale. « Je suis sur le départ, » gémit-il. Et il reste figé, à distance irréelle, pris dans les filets de l'absence, étendu, inerte, avec sa longue gueule de bois et sa carcasse enrobée, fixant le plafond, remuant vaguement les doigts, adressant un demi-sourire idiot à personne.
« Ne peut pas partir comme ça. » Inizan connaît le bonhomme. Il a la peau dure. Il simule.
Il le dévisage de biais. Allongé dans sa ferraille, Rousseau bouge un peu. Cela se prolonge encore. Il réagit, se cambre, se cabre, finit par desceller ses mâchoires. « J'ai l'impression d'être au bout du monde, » chuchote-t-il. « Tu t'en approches, » répond l'abbé. « Assieds-toi, Inizan. »
Et pose ta sacoche noire sur le dossier de la chaise. Ce sont les Saint-Huile ou je me trompe?
J'ai préféré, tu as bien fait. Rousseau tourne sa face écarlate vers le prêtre. Il réfléchit un instant, se gratte le nez, fait claquer sa langue contre son palais et serre d'une main ferme le bras de ce curé égaré dans l'époque.
On le sent mieux, presque remis sur les rails, momentanément revenu de son début de périple au long cours pour distiller les secrets d'un ciel bleu indigo à son hôte. Il relâche subitement son étreinte. D'un rapide coup d'œil circulaire, l'abbé fait le tour de la pièce, le lit, le sol, la table, respire une agréable propreté. On s'est affairé dans la journée, sans doute la sœur. Des effluves de lavande, d'aubépine, de tilleul ont remplacé l'âcre odeur d'urine et de vieux linge. Le pyjama de l'impotent sent la lessive, les rideaux sont tirés. La fenêtre entr'ouverte laisse pénétrer le cri des goélands. Au loin, le camion de Popeye pétarade.
Il doit livrer sur Billefotte, Minard, Plouézec, en frôlant la falaise virage après virage et en récupérant à chaque fois son camion d'une poigne de fer. Il va terminer sa tournée par Bréhec. Il est sur la route de la Corniche, souffle Rousseau. Dehors, le vent enfle, siffle, s'aiguise, roule entre les îlots de la Mauve et du Pommier. Les deux solitaires, arrimés à l'étage, juste au-dessus de la salle du bar, savent quelle sinistre retombée peut générer cet écho du Gulf Stream qui gueule en sourdine entrant dans l'ésophage des vagues, effleurant le bassin des péris du fond, gonflant les petites couilles de la mer, préparant le terrain des tempêtes en créant chez les hommes du cru un irrépressible besoin d'en finir, d'un geste, d'un seul, corps mort au bout d'une corde ou d'un fusil, comme ça, pour rien, pour vider leur sac seul à seul avec eux-mêmes, ou bien pour décerner un ultime pied de nez au grand dadais nu qui trône tout en haut des calvaires du pays. La nuit sera longue. Le prêtre opine du chef. Les yeux écarquillés, le malade examine le plafond. Son ventre massif rebondit sous la couverture. Pour un peu, Inizan s'en amuserait. La panse à Rousseau ressemble à un tonnelet de foire et elle bouge comme la peau d'un tambour dès que le cafetier commence à parler. Juste avant que tu n'arrives, l'infirmière est venue. « Oh, je commence à la connaître. » Note que le cérémonial ne me déplaît pas, elle pique en plein dans le pli du coude, un vrai remède de cheval. Morphine bleue ou quelque chose du genre D, qu'elle enfonce l'aiguille et durant une dizaine de secondes, je broute les étoiles. Après, je bande comme un âne. Inizan accélère son toucher de chapelet. Les os glissent. Histoire des rails. Rousseau grimace et pointe un index, rageur en direction de son sexe. Mais ce n'est pas de celui-là que je veux t'entretenir. Un rire nerveux s'accroche à sa gorge. Il ne réussit pas à l'expulser comme il l'aurait souhaité. De toute façon, ça retombe aussi vite et je redeviens alors ce que je suis, un homme en sursis, une larve, une mauviette. Une chiffe molle, si tu préfères, ainsi que tu m'as surpris en entrant. Cette lecture est terminée pour ce soir, et nous nous retrouverons donc demain. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.